Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Nadia au micro, une maman française mariée à un Français vivant à Bali, en Indonésie. Elle nous raconte sa première expatriation à Taïwan, et puis en Corée du Sud, et puis à Bali, en l'espace de 3 ans. Le tout avec la particularité de toujours être enceinte lors de ses déménagements. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Nadia!
Bonjour!
Merci de vouloir venir témoigner sur le podcast. Comme d'accoutumée, maintenant, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite présentation, nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Donc, je m'appelle Nadia, j'ai 33 ans, si je me souviens bien. En ce moment, on habite à Bali avec mon mari et mes 2 enfants, Stanislas et Victor, qui ont respectivement 3 ans et 1 an et demi. J'ai rencontré mon mari il y a longtemps. On faisait nos études ensemble, donc ça fait 15 ans, je crois, qu'on se connaît.
La moitié de ta vie déjà, hein, tu te rends compte ?
C'est vrai, c'est fou quand même quand on y pense. On s'est mariés ensemble en 2014. Et puis en 2015, on est parti faire notre première expat à Taïwan.
Taïwan. Alors, il est français ton mari ?
Oui, il est français, il est cuisinier.
Oh, et bien joué.
Oui, j'ai bien choisi. Hein. Et donc, oui, c'est son métier qui nous a un peu donné cette chance de pouvoir voyager.
Mais alors, tu travaillais, toi, en France, avant de devenir t'expatrier à Taïwan ?
Oui, je travaillais dans l'hôtellerie de luxe sur Courchevel. J'étais basée à Annecy, mais je travaillais pour des hôtels de Courchevel.
Ok. Alors, qu'est-ce que ça fait de tout plaquer pour aller vivre en Asie ?
Bah, à la base, quand j'ai accepté, accepté de faire ça pour mon mari. Ouais. Tout le monde à Taïwan, en fait, les contacts qu'on avait pu avoir par d'autres amis, etc., nous disaient « mais tu trouveras du boulot, t'inquiète pas », etc. Bon, ça m'a pris 2 mois pour me rendre compte que je ne trouverais jamais de travail, hein, concrètement.
Mais pourquoi ça ?
Parce que déjà, l'hôtellerie taïwanaise est constituée, enfin, les clients de l'hôtellerie taïwanaise sont constitués à 80% de Chinois, donc si on ne parle pas chinois, c'est même pas la peine. Puis après, je me suis dit, bon, profite de ton expatriation, tu sais pas combien de temps ça va durer, t'as signé que un contrat d'un an, enfin mon mari a signé qu'un contrat d'un an, donc profite des mois qui te restent. Bon, finalement, on a renouvelé encore une année, on est resté 2 ans au total à Taïwan.
D'accord, et qu'est-ce qui vous fait bouger alors dans votre prochaine destination ?
Alors on est parti en Corée du Sud, à Séoul, aussi pour le travail de mon mari. Donc, en fait, il travaillait pour un chef à Taïwan et ce même chef faisait une ouverture en Corée du Sud. Et donc, il lui a proposé d'aller faire cette ouverture avec d'autres Français à Séoul. C'était une bonne opportunité pour lui, pour sa carrière. Donc, on y est allé. Ouais. Puis, nous, ça nous faisait changer de pays un peu.
Et toi, tu étais contente du coup de partir, de sauter de Taïwan à Corée ?
Ah oui, j'étais contente, parce qu'en fait, du coup, moi, Taipei, j'ai vite fait le tour, dans le sens où j'avais toutes mes journées pour l'explorer, donc mon mari travaillait jusqu'à 23h, donc moi, je passais mes journées sur mon vélo à explorer.
Mais comment tu t'occupes, du coup, toute seule, sachant que tu ne peux pas nécessairement travailler ?
J'ai passé les 2 meilleures années de ma vie. C'est pas célibataire, je veux dire, mais bon, mon mari travaille beaucoup, je suis toute seule, j'ai pas d'enfants. J'ai plein de temps, donc j'ai fait beaucoup de poterie, j'ai pris des cours de calligraphie, j'ai rencontré des gens divers et variés. Quoi. J'avais un groupe d'amis français, j'avais des amis américains.
Alors vous migrez du coup en 2017 en Corée, c'est ça ?
C'est ça, en janvier. Et en fait, moi j'arrive, je suis enceinte de 4 mois, 5 mois.
Ah, donc tu arrives enceinte ?
Oui, j'arrive enceinte.
D'accord,
en fait, j'ai le don de déménager, de changer de pays enceinte, c'est ma spécialité.
Ah oui. Mais alors, attends, donc on va reprendre. Comment tu apprends alors que tu es enceinte à Taïwan ?
Alors, à Taïwan, en fait, on a suivi un parcours un peu chaotique. On voulait un enfant, mais bon, ça n'arrivait pas trop. Ouais. Donc, j'ai consulté des gynécos sur place, dans l'hôpital où vont tous les expats à Taipei. Bon, je passe les détails de santé, mais bon, bref. Il ne me recommande pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, on rentre en France. Mon beau-père est médecin. Donc, il m'aiguille sur des médecins à Paris pour essayer de voir un peu ce qui se passe avec moi, etc. A priori, ils me disent, bon, on ne voit pas trop ce qui se passe dans ton cerveau, mais ça serait peut-être un dérèglement hormonal, une minuscule tumeur qui, enfin voilà, ça n'a aucune incidence sur ma vie, hein, mais qui pourrait faire que tes ovules grandissent pas et donc, du coup, tu peux pas, ils peuvent pas être fécondés. Donc, ils me donnent une pilule. Ils me donnent un an de traitement d'un coup, ils me disent, voilà, tu prends ça, c'est une pilule par semaine, et tu reviens dans un an, et on fait le point sur tes taux hormonaux. Donc, je rentre à Taipei au mois d'août, j'ai pris deux pilules, et j'ai fait un test de grossesse, et j'étais enceinte.
Oh la vache. Mais alors, tout le monde veut cette truc, potion magique, bah, ouais, c'est clair.
Voilà, donc bah, du coup, bah, mon mari savait que je faisais le test, parce que bon, c'était pas le premier qu'on faisait, et voilà, je lui dis, bon bah voilà, hein, c'est fait.
Mais alors, attends, tu me dis tu démarres à 4 mois. Alors, j'imagine que ton suivi de grossesse, tu le démarres à Taïwan.
Oui, je commence à Taïwan. Et après, donc, on arrive à Séoul en janvier. Et en fait, ils ne nous logent pas tout de suite. Ils nous logent dans un hôtel. Et Séoul, il faut savoir que c'est très, 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 très grand. Et donc, en fait, tant que je n'ai pas mon logement définitif, je ne peux pas choisir mon hôpital, en fait. Donc, j'arrive à Séoul et pendant, je pense, 2 mois, j'ai plus de suivi parce que je sais pas où je vais habiter. Donc, finalement, il me trouve un appart. Voilà, on y va. Je trouve un hôpital qui finalement s'avère être le meilleur de toute la Corée. Il y a un hôpital, il y a une clinique internationale dans l'hôpital.
Trop bien. Donc, comme quoi, il faut savoir être patient, hein.
C'est ça. Et puis surtout, j'ai eu du bol qu'ils soient à côté de chez moi.
C'est clair. Non, c'est clair.
Puis voilà, bah en fait, je me rends compte qu'il y a des gens de Hong Kong qui viennent pour se faire soigner dans cet hôpital. Enfin, vraiment un super truc, quoi. Enfin, voilà. Après, c'est pas humain. C'est clairement une machine à fric. Faut que ça aille vite. Mais par contre, voilà, ça tourne. Hein. On n'attend pas. Hein. Il y a des stations. Oui. Hop, on passe de station en station. Tac, tac, tac. On fait les examens, machin, bidule. Voilà, ça y va. Mais on est bien suivi.
Alors, comment se passe, tu dirais, le suivi de ta grossesse en Corée? Tu penses qu'il...
Bon, moi, j'étais super content.
Il est performant,
Ouais, ouais. J'ai pas eu de problème particulier, donc après, voilà, j'ai pas eu de soucis de santé ni rien. Donc, juste sur la fin, j'ai eu de l'hypertension. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont déclenché. Sinon, voilà, tout s'est hyper bien passé.
Ils t'ont déclenché à combien de semaines, du coup, tu t'en rappelles?
37.
Ok. Bon, il est à terme à ce moment-là.
Oui, voilà, non, je ne vais pas prématurer. Il n'était pas en danger, mais vu que ma tension faisait qu'augmenter depuis 3 semaines et qu'on monitorait tous les jours quasiment, il arrivait à un stade où on voyait que ça ne se calmait pas, donc il fallait faire quelque chose. Oui. Quoi.
Alors, comment se passe l'accouchement en Corée? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Je ne veux pas faire peur à toutes les femmes qui vont accoucher.
Oh non.
En général, quand je raconte mon accouchement, toutes les autres femmes me disent « Ah bon, bah ça va, finalement, le mien, il n'était pas si horrible. »
Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, c'est pas vrai, c'était pas horrible, mais c'était long, très très long. En plus, après à Bali, j'ai découvert que j'étais un cas clinique et que je ne réagissais pas à l'ocytocine. Donc maintenant, je comprends pourquoi le premier a duré aussi longtemps, en fait. Donc du coup, entre le moment où je suis rentrée à l'hôpital pour me faire déclencher et le moment où mon fils est sorti, c'est écoulé 40 heures. Donc c'est légèrement long. On m'a déclenché 2 fois. On a essayé de me faire la péridurale 3 fois. Ça n'a pas fonctionné. Quand il est sorti, j'étais très, très, très contente qu'il soit sorti, en fait. J'étais même pas contente de le voir. J'étais juste contente que ce soit fini.
Mais tu devais être complètement fatiguée, surtout quoi.
Ah, j'étais très fatiguée. Ils m'ont filé un truc. Enfin, je viens d'apprendre d'ailleurs, parce que mon mari me l'avait jamais dit jusqu'à présent, mais qui m'avait donné un truc pour me faire dormir parce que fallait que je dorme 2 heures avant de voir mon fils, quoi. Parce que j'étais vraiment trop, trop fatiguée, quoi.
Mais tu m'étonnes.
Voilà, je suis sortie de l'hôpital le lendemain. Enfin, voilà. Non, d'ailleurs, ils voulaient me faire sortir le lendemain, mais comme nos familles n'étaient pas arrivées, vu que mon fils était né 3 semaines avant, on était tout seul. J'ai demandé si je pouvais rester une nuit de plus, parce que je ne me sentais pas du tout de rentrer à la maison.
D'accord. Oui.
Donc, du coup, on est resté 2 nuits à l'hôpital. On est reparti sur le lendemain, le matin. Voilà.
Alors, comment ça se passe, le suivi post-accouchement à Séoul?
En fait, j'écoutais tes épisodes d'avant, je réfléchissais, et j'arrive même pas à me souvenir.
Bah, t'as remarqué, par exemple, qu'ils avaient une salle de lactation et qu'en gros, tu ne pouvais pas donner le sein dans ta chambre, il fallait que t'ailles dans une salle spéciale, non?
Ah non, je veux pas ça, non.
Ah ouais, c'est vachement étonnant, ça.
Non, c'était. Non, ils avaient mon. En fait, mon fils, je pouvais soit l'avoir avec moi, soit leur donner à la nurserie. Au bout de 24 heures, j'avais trop, trop mal au sein. Donc, ils ont filé un biberon. Ça m'a brisé le cœur. J'étais en train de pleurer dans le couloir. Ça y est, j'ai foiré mon allaitement. En fait, pas du tout. On ne s'inquiète pas. C'est pas parce qu'on lui donne un biberon que ça y est, on a foiré son allaitement.
Et donc, puis, ils te l'ont gardé dans la chambre avec. Tu pouvais allaiter dans ta chambre, aucun problème ?
Aucun problème, j'avais un coussin pour le tenir c'est calé.
Ouais.
Non, c'était bien. Donc, j'ai pas pris la chambre plus où t'es toute seule avec un deuxième lit pour le papa, etc. On a pris une chambre au milieu, on était deux dans la chambre. Mon mari pouvait dormir avec moi.
Ah, il est resté avec toi ?
Ouais. Oh, bah, heureusement.
Mais comment se passe quand même la rencontre ? Enfin, j'imagine que t'étais épuisée, donc la rencontre avec Stanislas, ça devait être un peu dans les vapes. Mais comment ça se passe alors les premiers jours, tous les trois ?
Bah, quand on est tous les trois à la maison, ça va. On est fatigué, mais bon, ça va. Ouais. Et en fait, les deuxièmes semaines, là, on commence à être vraiment très, très fatigué. En plus, mon mari reprend le boulot, donc je me lève toutes les 2 heures, tout le temps.
Il n'avait pas de congé parental, c'est ça ? Ils n'en ont pas là-bas.
Une semaine à partir du jour où j'ai été déclenchée. Donc, il y a déjà 2 jours d'accouchement, 2 jours à l'hôpital.
Ouais.
Donc, il en restait 3, quoi.
Ouais, pas
mais bon, voilà. Et la troisième semaine, là, on est au bout de nos vies. On n'en peut plus, on est crevés. Mais là, mes parents arrivent et là, c'est...
Oui, survival.
Alléluia. Je pompe, je tire dans tous les sens pour qu'ils lui donnent le biberon la nuit et que moi, je puisse dormir 4 heures d'affilée.
Mais alléluia à ces personnes qui ont inventé un tire-lait. Hein. Incroyable, quoi.
Ça existe. Hein, moi, mon congélateur, il était plein de lait. Je pouvais aller faire des dates avec mon mari.
J'avais plus de place pour. D'ailleurs, ça me fait penser que pendant 4 mois, en fait, j'ai pas pu manger de glace. Parce que j'avais pas de place dans mon congélateur.
Oh mince, alors c'est ballot. Mais bon, franchement, la glace, tant pis, quoi. Tu vas faire ton date et tu manges ta glace, quoi.
C'est clair. Donc, tu rentres directement chez toi, tu vas pas dans un centre post-accouchement. Je sais qu'il y a les Coréennes qui vont dans des centres pendant un mois.
En fait, à la base. Je comptais accoucher à la date de mon terme, donc mes parents devaient être là. Donc, j'avais pas prévu d'accoucher 3 semaines avant et de passer 3 semaines toute seule. Si j'avais su ça, peut-être que je serais allée dans un centre comme ça. On a été très fatiguées et puis après, ça allait mieux. Voilà.
Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un petit bébé en Corée ? Parce que je sais aussi, par exemple, que normalement, t'es pas censée sortir de chez toi les 100 premiers jours. Ou alors il te regarde avec des yeux, genre qu'est-ce que ton enfant il fait dehors ? Il devrait être dans ton appartement.
Ben voilà, ben on me regardait avec ces yeux-là. Moi je pouvais pas rester chez moi indigne. Bonjour. Voilà, c'est ça encore toujours la mère indigne, vraiment.
Pour peu qu'il soit en terrasse en train de boire une bière. La nana, elle a rien compris.
C'est ça, elle a raté toute la vie de son enfant. Il est foutu d'avance.
Il est foutu.
c'est ça. Normalement, on reste chez soi 100 jours. On sort pas l'enfant. Il faut rester au chaud. Alors ça, c'est très, très important. Il faut tout le temps porter des chaussettes, même s'il fait 30 degrés. Il faudrait surtout pas se refroidir. Bon, bah moi, je suis sortie au bout de... tout de suite, quoi. Voilà, mon beau-père, il est arrivé 12 jours après la naissance de mon fils. On prenait le taxi, on allait faire des visites. Voilà, on en a profité quand même, quoi.
Mais alors, attends, est-ce que du coup, tu apprends le coréen ou c'est tout aussi laborieux que d'apprendre le mandarin ?
Je pense que c'est plus facile d'apprendre le coréen, mais j'ai quand même pas appris le coréen. Parce qu'en fait, entre la grossesse, la naissance de mon fils, la visite des familles, des amis, et puis après, bon, ça s'est mal passé au travail pour mon mari. On est parti assez rapidement. Enfin, on devait rester 2 ans, on est parti au bout d'un an et demi. Bon, heureusement,
mais t'as été efficace
pas perdu.
Alors ? Ouais. T'es arrivée en Corée, tac, tac, on accouche. C'est on ça. Est bon, on repart.
Alors, on repart et on repart enceinte.
Mais attends, parce que je t'ai même pas demandé, mais oui, 3 ans et 1 an et demi, c'est-à-dire qu'ils ont 1 an et demi d'écart.
Oui, donc je suis tombée enceinte pour les 1 an de mon aîné. Voilà, on a bien fêté ça.
La vache. Mais alors, attends, c'était... Vous vouliez avoir un écart aussi rapproché ou c'était unexpected ?
En fait, on savait même pas si on voulait un deuxième enfant. On avait galéré de fou pour avoir le premier, donc on s'est jamais dit que le deuxième allait arriver comme ça, quoi. Donc, on part de Corée fin mai. Mi-juin, je me rends compte que je suis enceinte. Et je m'en rends compte, en fait, quand mon mari est dans l'avion, en escale à Amsterdam, en destination de notre nouveau pays, donc Bali. Donc je l'appelle, il est en escale à Amsterdam et je lui dis bon bah je viens de faire un test de grossesse et je suis enceinte. Et donc après je fais le test de grossesse et une échographie et là on me dit j'ai un très très gros décollement placentaire, que en gros j'ai 50% de chance de perdre le bébé et puis j'ai beaucoup de saignements aussi donc Donc, du coup, bon, ils me disent de faire super attention, sauf que, moi, il faut que je prenne mon avion pour aller à Bali, rejoindre mon mari, quoi.
Ouais.
Donc, ce vol-là était très sympa, je m'en souviens, toute seule, avec un bébé d'un an, avec des saignements, à faire les escales en fauteuil roulant. C'était sympa.
Mais alors, oui, c'est une question que j'ai tout le temps. Comment tu gères, du coup, l'avion quand t'es avec ton petit et que tu dois aller aux toilettes ?
Bah, soit t'attends qu'il dort, et moi, ce que je faisais, c'est que j'attendais qu'il dorme, et je demandais à une hôtesse de rester à côté, quoi.
Ouais. Je me suis toujours posé la question, comment elles font les nanas qui voyagent toutes seules avec leur petit ?
Ou alors, si t'en as deux, t'en as un qui reste dehors avec une hôtesse et l'autre qui vient avec toi, c'est pas très pratique.
Ouais. Non, mais c'est good to know, c'est des trucs comme ça qui me stressent. Donc...
Mais les hôtesses, en général, elles sont contentes d'aider, quand même. Enfin, moi, j'en ai jamais rencontré qui m'a mal répondu, qui m'a dit c'est pas le moment ou. Enfin...
Ouais, t'es gentil. Ok, good to know. Donc, t'arrives à Bali avec Stan et en étant enceinte avec une grossesse qui paraît un peu compliquée. Comment ça se passe le reste de ta grossesse ?
Les 4 premiers mois, un peu comme ça, quoi, un peu. Beaucoup de saignements, le médecin qui me dit faut pas faire de scooter, mais ici du scooter c'est le moyen de transport, quoi, donc t'en fais tous les jours. Marchez pas, j'ai un enfant d'un an, faut que je trouve une maison, je suis en plein déménagement, c'est un peu difficile, quoi. Donc c'est les 4 premiers mois un peu comme ça, ça va, mais bon, c'est pas non plus l'extase.
Ouais. Et je dirais que Victor s'accroche à son placenta et toi tu t'accroches à lui et puis on avance.
Donc voilà, c'est ça. Et puis on fait aller et puis finalement Victor finit par arriver. Hein.
Juste rapidement, comment ça se passe le suivi de la grossesse à Bali versus en Corée alors ?
Franchement, c'est assez similaire. Pareil, écho tous les mois. C'est presque mieux dans le sens où le docteur est plus proche de ses patients. Enfin, moi, je peux envoyer des WhatsApp à mon gynéco quand je veux. Hein. Il me répond.
C'est trop bien.
Puis directement à lui. C'est pas à son assistante, c'est à lui. Après, oui, c'est sûr, c'est moins technologique que la Corée. Mais honnêtement, je m'attendais à pire avant de venir. Enfin, quand je lisais les forums et tout, tout le monde disait... on rentre en France pour accoucher, Bon, moi, je trouve que les infrastructures sont bien, quoi. Enfin, franchement, j'ai eu une césarienne, j'ai jamais eu peur pour l'hygiène ou quoi que ce soit. Ça, c'était hyper clean et hyper bien. Donc, moi, je suis très contente de comment ça s'est passé ici.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors pendant ton accouchement ?
Que pareil, je suis déclenchée parce que ça faisait 10 jours que je dormais plus. J'arrivais à un stade de fatigue. extrême, je pouvais plus bouger, trop fatiguée.
C'était quoi ? C'était parce qu'il était trop gros ou c'est parce que c'était toujours de l'hypertension ?
Non, pas d'hypertension. À ce niveau-là, ça allait bien. Juste, j'étais épuisée, quoi. Et puis, j'avais quand même un petit d'un an et demi à la maison qui avait des gros problèmes d'asthme et en plus de l'anémie, donc il mangeait rien. Très fatiguée, enfin bref, c'était un peu compliqué quand même à gérer. Donc du coup, le médecin, il dit, écoute, on va te déclencher. De toute façon, tu verras, le deuxième, ça va toujours 1000 fois plus vite. Hop, en 4 heures, ça sera fini. Voilà.
Et alors, ça s'est fini en 4 heures ou pas ?
Non. non,
mais parce que... Est-ce que t'es descendu au moins à 20 heures au lieu de 40 ?
À peu près. Je pense qu'on doit être dans ces zones-là.
C'est pas mal, on est sur une évolution positive.
C'est ça. Bon... Du coup, j'ai pas envie d'avoir un troisième.
Tu l'auras qu'en 10 heures.
Ouh, super. du coup, en fait, ce qui m'a un peu rassurée, c'est qu'avant de me déclencher, il m'a dit, écoute, ici à Bali, le protocole pour le déclenchement, c'est que si au bout de 15 heures, t'es pas dilaté à plus de 3 cm, on te propose la césarienne. Chose qu'on m'a jamais proposée en Corée. En Corée, on m'a remis des doses jusqu'à ce qu'ils sortent, quoi.
Oh la vache, la potion d'hormones, quoi.
C'est ça. Ouais. Donc, les 15 heures se passent. Donc, je suis quand même à dose maximale pendant 15 heures. j'avais quelques contractions. À la fin, j'en avais des dans les reins qui me faisaient horriblement mal. Ouais. Et là, en fait, j'en ai carrément mille fois plus profité que l'accouchement par voie basse en Corée, quoi. Parce que j'étais moins fatiguée, j'ai pu voir mon fils. Après, bah, ils m'ont sorti de là. J'ai attendu un peu en salle de réveil. Ils m'ont emmené dans ma chambre. Mon mari était là et puis ils nous ont amené mon fils. Et là, je regarde l'étiquette au-dessus de son lit et je vois qu'il fait 3 kg, 900, je sais pas combien. Oh, je me dis, bah dis donc, c'est pour ça qu'il devait... passait pas, en fait. Hein, punaise.
Et c'est là où tu es contente peut-être de ne pas être passée par voie basse.
Mais je pense surtout que c'est pour ça qu'il passait pas, en fait. Parce qu'il est même né, le pauvre, avec le haut des lobes d'oreilles pliés en deux, tellement qu'il était coincé dans mon bassin, quoi. Alors ça s'est déplié avec le temps, heureusement. Mais sur le moment, quand j'ai vu, j'ai fait, oh le pauvre, on dirait qu'il sort d'un combat de boxe, quoi.
Je me rappelle de la tronche de Pierre quand il est sorti, il était tout violet, ça me faisait... Enfin, je l'ai... Toi, tu t'imagines, je pense, le bébé tout beau, je sais pas, tout nettoyé, alors que le truc arrive, il est violet-orange. Toi, t'es un peu dans les vapes, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, il sent pas bon.
Ouais, ça, tout visqueux.
Oh, heureusement qu'il y a ce qu'on appelle l'instinct maternel qui se met en place.
Heureusement qu'il est là, celui-là. Hein. Il nous sort de plein de situations, cet instinct maternel.
Alors, donc Victor arrive. Déjà, est-ce que tu savais que ça allait être un garçon ?
Alors, oui, du coup, on a demandé, parce que c'est quand même un peu plus difficile d'avoir des trucs de puriculture ici. J'avais des copines qui avaient tout de suite des garçons qui pouvaient me donner des habits, mais si je les prenais pas tout de suite, enfin voilà, elles voulaient s'en débarrasser, machin, donc je savais pas ce que je faisais. Et puis bon, bah finalement à 7 mois, on a demandé le sexe, mais honnêtement, j'étais persuadée que c'était un garçon. Et du coup, quand il me l'a dit, ben ça m'a pas fait d'effet surprise, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Voilà, je savais, je sais pas. Mais
bah, c'est un garçon, je fais ah, ok. T'es en train de te monter ta propre équipe de rugby, c'est pas mal.
Oui, c'est pas mal. C'est pas mal.
Combien de temps tu restes à l'hôpital, du coup ?
Pareil. Là, j'ai une césarienne, donc ils me disent 2 nuits. Donc, les premières 24 heures, je suis au lit, ils me mettent une sonde urinaire, je peux même pas me lever pour aller faire pipi. Voilà, et après, au bout de 24 heures, ils enlèvent tout ça, ils regardent un peu comment va la cicatrice, et puis tu redors une nuit, puis tu rentres chez toi.
Et comment tu fais alors pour l'allaitement ? Parce que j'imagine que tu peux même pas te baisser, quoi, ça va être...
Bah, je demande de l'aide, enfin, vu que mon frère est chez moi, du coup, j'ai tout le temps quelqu'un. Mes parents étaient dans l'avion le jour où j'ai accouché, donc le jour de la naissance, ils étaient là, quoi. Enfin, du coup, j'ai de l'aide à la maison.
C'est trop bien.
Du coup, je suis vachement plus détendue, quoi.
Alors, comment ça s'est passé, la rencontre avec les deux petits loulous ?
Bah, trop bien, quoi. Enfin, c'était... Bah, Stan, il parlait déjà un peu, il était là, bébé, il lui a amené un doudou, c'était trop mignon, quoi, trop mignon. Mais bon, ça a été de courte durée, parce qu'après, du moment où je suis rentrée à la maison, Stan hurlait comme un fou dès que j'allaitais. Donc quand même, on allait souvent d'une journée, et ça a été très 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 dur. Moi, j'en pleurais, c'était horrible, quoi. Il me tirait le bras et dès que je lui donnais un doigt, il s'accrochait à mon doigt, il restait debout à côté de moi pendant tout l'allaitement, quoi. Ça fendait le cœur.
Mais parce qu'il voulait, il te voulait toi en attention, quoi. Il voulait pas que tu portes d'attention à son petit frère, quoi.
C'est ça, je pense. Ouais. Ah ouais, c'était très dur, ça. Hein. Ça a duré, je pense, un mois quand même. Hein. C'était long. Hein.
Et ton frère ou tes parents, ils pouvaient pas prendre. Stanislas, pendant que tu essayais de gérer l'allaitement ?
Aussi, ils l'ont fait plusieurs fois, mais fallait le calmer, beaucoup lui parler, le serrer très fort, parce que sinon il se débattait, il partait dans tous les sens. Être extrêmement calme, en fait, complètement à l'inverse de ce que lui faisait, quoi. Donc mon père y arrivait un peu, mais ça marchait pas avec tout le monde quand même. Non, vraiment, il souffrait, quoi. C'était vraiment pas drôle à voir.
Mais ça s'est calmé, cette phase ?
Ouais, ça a pris un bon mois. Après, quand même, je pense les 10 mois de Victor, ça a été quand même beaucoup, beaucoup de jalousie ou d'ignorance, quoi. Comme si il n'avait pas de frère, quoi.
Après, ils sont tellement petits. C'est ça. Il ne peut pas jouer avec lui, il s'en fiche un peu, quoi.
Et puis, il n'a pas les mots encore pour exprimer, même si lui parle vraiment très bien, mais... Ouais. Il n'a pas encore les mots pour exprimer tout ça, et donc bah, ça, voilà, ça se montre en frustration, en énervement, mais bon, voilà, c'est pas grave, on a géré. Et en fait, depuis que Victor fait du quatre pattes, puis alors depuis qu'il marche, alors là, c'est juste génial.
Bah oui,
quoi.
J'imagine.
Alors là, ça y est, on a vraiment deux
frères. Et puis
toi,
ça doit te faire du bien, non ? Je veux dire, du coup, il l'occupe, quoi, non ?
Bah oui, et puis même, quoi. Juste de voir que, voilà, Stan, là, ça fait 2 semaines, je dirais, il a l'instinct protecteur pour son frère qui commence à arriver. Donc, il se met... Hier, la maîtresse fait une blague, on devait rentrer à la maison après l'école. La maîtresse de Victor le tient dans les bras, elle dit « Bon, ben, je garde Victor parce qu'il est trop mignon. » Et Stan commence à la taper en lui disant « Non, c'est mon frère, il rentre à la maison. » Donc moi ça, voilà, c'est rigolo, il était énervé mais moi j'ai trop kiffé quoi.
Ouais, j'imagine. Bah surtout après 10 mois à se dire bon bah est-ce que ça va coller quoi.
Exactement. Exactement.
Mais c'est trop bien parce qu'il va toujours toute sa vie, il va être avec son frère quoi, il y aura pas eu la première année, je pense qu'il va pas se rappeler qu'il était tout seul quoi.
Exactement. Non, mais ça c'est vraiment cool et puis enfin, les gens trouvent qu'ils se ressemblent, moi, je le vois pas, mais du coup, des fois, si je viens juste avec Stan, on me dit « Ah, coucou Victor !» Non, c'est pas Victor, c'est Stan. Les gens les confondent. Enfin, je pense qu'arriver à un certain stade de leur vie, ça sera un peu comme des jumeaux, je pense. Surtout que Stan est très petit et Victor est plutôt grand, donc du coup, ça se confond assez facilement.
Ouais, non, je pense qu'avoir un gap aussi rapproché, je pense que tu galères très clairement pendant... je sais pas, genre à chaque fois les 3 premières années, et puis après, bon, bah ils sont good to go, quoi.
C'est ça. Ah bah là, j'attends qu'une chose, c'est que Victor ait l'âge de Stan maintenant, quoi. Là, Stan, il a ses premiers playdates, je pense qu'on va pas tarder à faire la première sleepover, et...
Puis ils parlent, ils peuvent communiquer leur émotions, tu sais un peu ce qui se passe dans leur tête, et...
Ouais, et encore, là, depuis le début du confinement, on va dire, là, on commence enfin à revivre, quoi. Entre eux deux, ça se passe bien. Victor, il dort un peu mieux. Il mange comme nous. On n'a pas de repas bébé à faire.
Ouais.
Là, ça, on commence à... On a fait un week-end à Bali, ça y est. On commence à visiter Bali, enfin.
Oui, parce que j'imagine t'es arrivée pareil qu'en Corée, quoi. Sauf que, bon, tu restes un peu plus longtemps, mais...
C'est ça. Là, ça fait 2 ans, là, quasiment jour pour jour qu'on est ici. Bah, en fait, c'était compliqué parce que bah, là, à 4, si on part en week-end, on prend une chambre d'hôtel, on ne va pas en prendre 2 parce qu'on a 2 bébés, donc il faut prendre 2 lits bébés. Et puis Victor, il se réveille, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il se réveillait hyper souvent. Donc quand on est à 4 dans la même chambre, ça veut dire qu'il réveille Stan. Enfin, c'était pas vivable, quoi. On a essayé de le faire 1 ou 2 fois, ça nous a tellement pris la tête qu'on a dit on va attendre que...
Oui, c'est ça, c'est pas des vacances, quoi.
Non, pas du tout, quoi. Pas du tout.
Ouais.
Donc là, ça y est. On a fait un week-end le mois dernier, là on va faire encore un week-end ce mois-ci. Comment ça ?
Non, c'est bien, tu relèves la tête.
Oui, jusqu'à maintenant, c'était totalement de la survie. Après, encore, je ne me plains pas, parce que je préfère 1000 fois avoir vécu ce que j'ai vécu ici qu'en France. Parce que ici, j'ai des nounous, j'ai femme de ménage, j'ai la crèche à partir de 6 mois, je veux dire, c'est... je sais pas comment dire en français, no questions asked, quoi. J'ai pas de liste d'attente, c'est tout, tu payes, t'as une place. Donc j'ai quand même un confort de vie que j'aurais jamais eu ni en Corée, ni en France, quoi.
Et attends, alors ton mari, il a pu avoir un congé parental ou toujours pas ? Ou une semaine ?
C'était... Non, là, il a eu 15 jours. Ah. Donc, c'était bien.
Bah, c'est bien, donc du coup, pour le troisième, il aura 3 semaines ?
Non, c'est bon, pas de troisième. Ah non, c'est bon, là après les 2 ans là, qu'on vient de se faire...
Surtout que là, il a 18 mois, donc il faudrait que tu y ailles, quoi.
Non, c'est bon. Mais c'est ce que je disais à mon mari, en plus, il y a 3 jours, je lui disais ça, je lui dis, tu te rends compte que là, à l'âge qu'a Victor, c'est comme si j'étais déjà enceinte de 4 mois, quoi. Ouais.
Je dis, non, c'est pas la peine, quoi. Et tu pars dans notre pays, du coup.
Non, mais l'angoisse.
Mais c'est marrant, à chaque fois, je me dis, bon, le deuxième, c'est toujours une suite logique du premier, je dirais, en général, pour les couples. Mais le troisième, c'est vraiment un choix familial, quoi. À te dire, OK, let's do it, quoi.
Bah, en fait, c'est incroyable. Je sais pas. Après, voilà, je t'imagine qu'avoir des enfants avec un âge, enfin, un écart d'âge plus important, ça aussi, c'est challenge. Mais après avoir vécu, ces 2 dernières années avec des enfants très proches, etc., je me dis, ça peut pas être pire que ça, quoi. Enfin, je vois pas comment.
Bah,
en fait.
Ça peut être des jumeaux après, hein.
Ah non.
En troisième. C'est, ah ouais. Je vois que ça comme, comme gros challenge.
Oh, l'autre en boîte. Non, mais voilà, après, comme j'ai dit, on se plaint pas, quoi. La vie ici, c'est quand même super cool, quoi. Je veux dire, on a la piscine, ouais. On était confinés à la maison, mais nous, on avait l'impression d'être en vacances, quoi. C'était.
Bah attends, mais qu'est-ce que je fous chez moi?
Mais c'est ça, non, mais New York, quoi, quelle idée!
Bah franchement, ouais, hein. Je sais pas ce que je fous là. Hein.
Non, mais je dis ça, mais en même temps, nous, ça nous fait bien rêver, New York, quand même. Hein.
C'est vrai,
oh. Ah ouais.
Bah crois-moi, avec des enfants, ça te fait moins rêver. Hein.
C'est vrai, c'est vraiment la galère.
C'est pas que c'est la galère, c'est que c'est extrêmement cher. Parce que tu me dis, toi, par exemple, la femme de ménage, les nannies, tout ça, c'est à ta portée. Mais ici, non. Enfin, je veux dire, c'est pas à la portée de n'importe qui, quoi. Dis-moi rapidement, à quel âge ils vont à l'école à Bali? À partir de 5 ans ou 3 ans?
Alors oui, en fait, les écoles, les vraies écoles, on va dire toutes les écoles internationales, c'est à partir de 5 ans. Mais du coup, il y a des espèces de learning centers qui ont ouvert de... tout petit, alors ça dépend des écoles, celle où nous on va, c'est à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans.
Ouais, donc, c'est les décaires, quoi.
C'est un peu des trucs, c'est tout des trucs privés.
C'est comme ici.
Voilà, donc là, pour l'instant, les deux vont dans un truc comme ça, et je pense qu'en septembre, la Stan ira à l'école française.
D'accord, donc t'as une volonté quand même de les garder dans un programme franco-français, ou c'est multiculturel, comment ça se passe?
Ils font, dès la maternelle, ils ont des cours en français et en anglais, mais moi c'est surtout vis-à-vis, enfin c'est pas particulièrement que je veux qu'il aille à l'école française, c'est parce que l'école française, comme on le sait, c'est la moins chère des écoles internationales.
C'est pas dans tous les pays, hein, parce que le lycée français de New York, c'est pas le même tarif que le lycée normal lambda américain.
Ah non, non, mais bien sûr, mais dans les écoles internationales, je veux dire.
D'accord.
Souvent, l'école française, quand tu compares l'école internationale, enfin, à l'étranger, d'une école française ou d'une école américaine ou d'une école anglaise ou australienne, même, parce qu'ici, il y a beaucoup d'écoles australiennes, ben, la française, c'est toujours la moins chère dans tous les pays, quasiment.
Ok. Et bah, vraiment, tu me donnes envie de partir à Bali, là, ce soir, hein, donc continue.
Vas-y, viens en vacances, en tout cas, je t'accueille.
Je suis en train de paquer mes cartons, je vais peut-être pas les paquer à la bonne destination. Ils parlent quelle langue en Indonésie?
Alors, ils ont le Bahasa Indonesia, qui est la langue nationale, on va dire, et après, okay. Chaque île, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'îles en Indonésie, chaque île a sa propre langue. Donc, à Bali, il y a les vrais balinais parlent balinais, et après, ils parlent aussi parfois indonésien.
Et ils parlent anglais ou...
Ouais, la plupart parlent un petit peu d'anglais. Après, voilà, ma nounou, par exemple, elle parle très, très peu anglais.
Comment tu communiques avec elle, alors?
Bah, on se débrouille et puis j'apprends quelques mots, moi. Je fais pas des phrases, mais je connais des mots. Je connais le mot douche, ouais. Manger, boire, banane, voilà.
Couche.
C'est ça. On finit par apprendre quelques trucs. Et puis, bah, elle s'améliore en anglais aussi, du coup. Après, quand c'est des tout petits bébés, il n'y a pas besoin de parler. Elle leur parle en indonésien à mes enfants, tous les deux. Enfin, d'ailleurs, mon deuxième, Victor, parle que indonésien. C'est-à-dire que là, il dit ses premiers mots en ce moment, mais il n'y en a aucun qui est en français.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, comment vous alliez vous organiser entre l'anglais, l'indonésien et le français, là?
Bah là, c'est un gros mix. Mon aîné parle très très bien, il a parlé tôt, il parle très bien, il parle mieux que la plupart de ses copains, et il différencie très bien les langues, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'à telle personne il faut parler telle langue, donc il switch de l'une à l'autre sans aucun problème. Après, Victor, lui, il parle que Bahasa, quoi, puis j'essaie de lui apprendre en français, ici il sait dire,
ça sort pas, ouais.
il dit coucou, pipi et caca, super, génial. Merci.
C'est pas mal. Il peut savoir te dire bonjour depuis les toilettes.
Voilà, bah super.
Non, c'est quand même pas mal.
À chaque fois qu'on lui change la couche, il y a pipi.
C'est trop chou. Mais alors, tu les mets tous les deux là dans la même la même crèche entre guillemets?
Oui. Oui, oui. Là, c'est tous les deux dans la même et à partir de septembre, du coup, deux différentes.
OK. Et alors toi, donc du coup, comment tu vois toi ton avenir? Maintenant que tu peux relever la tête hors de l'eau.
Bah, déjà, j'aimerais bien visiter Bali, en fait. On commence à tailler, enfin, un petit peu. Si possible, le reste de l'Indonésie. Mais bon, là, je ne voudrais pas me décevoir moi-même. Donc, on verra.
Mais tu te projettes de travailler, vu qu'il y a quand même beaucoup d'hôtels, j'imagine, à Bali. Est-ce qu'ils sont tout aussi piqués qu'en Corée ou...
Ici, au niveau professionnel, il y a plein d'opportunités. Enfin, il y a moyen, en fait, d'avoir un visa de travail D'accord. Mais bon, voilà, les choses se font par bouche à oreille, par opportunité. C'est pas impossible que moi, un jour, je trouve du boulot, quoi. Ici, en fait, c'est plus envisageable. Ou je peux créer une entreprise, ça, c'est facile aussi.
Ah, ça, c'est top. Tu pourrais faire ton petit hôtel.
Ah non, pas un truc aussi gros. Faut se lancer dans de l'artisanat ou j'en sais rien, des choses en plus qui font travailler les... Voilà.
Ouais.
C'est plus dans ces choses-là que c'est intéressant.
Ok, voilà. Je vois. Mais alors là, pour le moment, tu le vois juste voyager et ensuite potentiellement te remettre sur une voie professionnelle.
Oui, voilà, je pense que ça se fera comme ça. Après, on se laisse un peu porter. Enfin, on est venu ici pour un peu la douceur de vivre, donc on essaye d'en profiter, quoi.
Bah, j'imagine, ça doit changer quand même de Séoul, hein.
Ah oui, clairement. Après, la pollution, les bronchites à répétition, ici, on est tranquille.
Vous voyez du coup rester là-bas sur le long terme ou vous voyez peut-être se faire un quatrième pays d'Asie ?
Non, on parle pas d'Asie, on parle plutôt du Canada, je pense.
Ah oui, mais, tout.
Mais après, on n'a pas envie de partir maintenant non plus, quoi, parce qu'on sait que la vie qu'on a ici, on l'aura nulle part, quoi.
Tu troques la plage pour la neige.
Mais c'est même pas une question de climat, c'est de confort de vie, quoi. Je veux dire, là, j'ai la nounou quand je veux, on nettoie ma maison, j'ai jamais à le faire, puis ça me coûte rien. On a une vie, mais méga privilégiée, et c'est quand même... on se rend compte de la chance qu'on a, et c'est pas facile de passer de ça à... Même rentrer en France, ça serait compliqué, quoi. On en est conscient.
Ah, c'est clair, c'est clair. Il y a une grosse communauté de Français à Bali ou pas du tout ?
Ah oui, énorme. C'est-à-dire que moi, je dois parler anglais français toute la journée, je crois.
Oh, mais ils sont partout, ces Français, hein.
Bah, en Corée, on n'était pas trop embêtés, ça va, mais à Taïwan non plus, bah, y en a bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'en fait, à Séoul, sur une ville de 24 millions d'habitants, il y avait autant de Français qu'ici à Bali.
Bah, en même temps, tu me diras, c'est quand même une belle île.
Ouais. Non, c'est super beau, super beau.
Est-ce que tu aurais des conseils, alors, du coup, pour des familles qui souhaitent partir, je ne sais pas, soit à Taïwan, soit en Corée, ou soit en Indonésie ?
Faut se laisser aller, quoi. Faut pas se dire que ça sera comme chez soi. Enfin, après, moi, je n'ai jamais accouché en France et je n'ai jamais été enceinte en France, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais faut pas comparer, quoi. Je veux dire, tu viens dans le pays, tu observes comment les gens font, ils le font tous les jours, donc c'est que ça va, ça passe, et que ce n'est pas parce que, je ne sais pas, on ne contrôle pas ci ou on ne contrôle pas ça que ça y est, tout le monde va mourir. C'est pas grave. Et ne pas se comprendre aussi. Enfin, bon, déjà, les médecins, en général, ils sont éduqués, donc ils parlent quand même un petit peu anglais. Mais ne pas se comprendre, c'est pas forcément... Pas tout comprendre, c'est pas forcément grave, quoi. Puis ça se passe bien, se détendre, profiter. Je veux dire, on a quand même la chance de faire ça, de s'expatrier, pouvoir vivre dans d'autres pays.
Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour le futur ? Est-ce qu'on te souhaite de rester, profiter un peu de l'Indonésie ? On te souhaite pas manifestement un troisième enfant, on a compris.
Oui, non, merci, c'est gentil.
Est-ce qu'on te souhaite un nouveau pays ? Est-ce qu'on te souhaite de monter ta boîte ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ?
Profiter encore un peu d'ici et puis monter ma boîte. Ça, je veux bien qu'on me le souhaite, ça serait cool.
D'accord. Nadia, je te remercie en tout cas pour ton témoignage et de nous avoir fait découvrir autant de pays en l'espace d'une heure.
Ouais, avec plaisir.
Je ne vais pas prendre de suite mes billets d'avion pour Bali, mais j'y pense.
Bah écoute, je t'accueille avec plaisir. N'hésite pas.
Bah oui, attends, la piscine, le machin, la femme de ménage, le daycare qui paraît un peu abordable, franchement.
C'est ça.
Ah, c'est pas grave, tant pis. Bah écoute, je te laisserai venir nous voir à New York ou aux États-Unis.
Ah, avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao !